Louange et remercier au Seigneur. Louange et merci au Seigneur, pardon. Et merci au Seigneur. Je vais devoir parler à voix basse cet après-midi car j'ai eu un peu de mal avec mon cœur ce matin. Peu de gens peuvent s'imaginer ce que cela signifie d'être soumis en permanence au changement de climat, au décalage horaire, au vol de nuit. Et puis, comme le dit Paul, les soucis à cause de l'Église de jour comme de nuit. J'ai pris très au sérieux ce que Dieu nous a laissé. Et pour moi, c'est la chose la plus importante qui puisse exister sur terre. Car il ne s'agit pas ici de décisions temporaires. Il s'agit ici de la décision divine qu'il a déjà prise de toute éternité et qu'il fera exécuter pour l'éternité. Et il s'agit pour nous d'en faire partie, de faire partie de l'Église épouse qui sera avec lui et auprès de lui pour l'éternité. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau témoignage par l'acte de baptême, à savoir que des personnes prennent tout simplement le nom du Seigneur en toute connaissance de cause, puis le porte ensuite et se porte garant de lui, se tiennent pour lui, pas seulement avec des mots superficiels, là où le nom du Seigneur est peut-être à sa place selon eux, mais là où il doit être. Comme je vois notre sœur bien-aimée aux cheveux gris qui nous a raconté sa vision ou son songe ce matin, j'ai dû penser à deux passages de la Bible déjà avant et on me les rappelle encore une fois maintenant. Et je suis maintenant rappelé encore maintenant. La première parole se trouve dans Genèse, peut-être dans le troisième chapitre. Il y avait là l'arbre de vie. Et après la transgression, les hommes furent chassés du paradis. Et il est dit ensuite qu'ils ne doivent pas prendre de l'arbre de vie et vivre éternellement. Sinon, ils auraient alors vécu éternellement dans le péché et la séparation d'avec Dieu. Et c'est pourquoi ils devaient être chassés. Cela se trouve probablement dans Genèse 3, quelque part entre les versets 20 et 24. Je ne suis pas non plus préparé à cela. Vous savez que je viens comme vous. Verset 22. Genèse 3, verset 22. Genèse 3, verset 22, « L'Éternel Dieu dit, l'homme est devenu comme nous, en ce sens qu'il sait distinguer le bien du mal. Mais maintenant, de peur qu'il n'étende la main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il n'en mange et ne devienne immortel. » Avez-vous déjà lu cela sous une forme aussi crue? Si l'humanité tombait dans la transgression, ces deux hommes-là avaient pris part à l'arbre de vie sans réconciliation, sans rédemption. Que serait-il advenu, l'homme aurait eu la vie éternelle en étant séparé de Dieu. Quel aurait été l'intérêt d'un homme, d'une personne? Je pense que l'on peut utiliser le quatrième et le troisième cas. Quel aurait été intérêt? Quel aurait été l'intérêt? L'intérêt de vivre éternellement, séparé de Dieu. Je pense que cela aurait été un tourment pour l'éternité, qu'aucun être humain ne peut vraiment supporter. Et puis quand la sœur nous a dit, comme elle avait vu il y a déjà plus de 30 ans, des gens venir de toutes les directions, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les couleurs de peau, et prendre ensuite les branches de cet arbre, je pense à deux paroles, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Les feuilles serviront de médicaments et de remèdes. Une indication, celui qui appara l'arbre de vie est guéri. Guéri, reçoit le salut. Le salut lui est accordé, il reçoit la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Et puis encore, la parole glorieuse dans Apocalypse 22. Il est écrit au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de la prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte au sujet desquels il est écrit dans ce livre. Imaginez donc un tel jugement. Et Dieu est lié par sa parole. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu lui retirera sa part de l'arbre de vie et de la sainte ville. C'est dire combien il est dangereux à l'époque où nous vivons de ne pas accepter spécialement le dernier livre, à savoir la révélation de Jésus-Christ, sous quelque forme que ce soit, de ne pas accepter ce dernier livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, comme il est dangereux. Car c'est l'époque où la révélation a été révélée, où ce livre aussi a été révélé. Et c'est l'époque où les gens doivent prendre leurs décisions. Je peux m'en souvenir, l'histoire de l'Église raconte quel combat intérieur a mené le plus grand homme d'Allemagne, Martin Luther, pour que la révélation soit intégrée dans la Bible. Quel combat il a dû mener. Parce qu'il disait simplement, oui, qui peut faire quelque chose avec ça? C'est en effet impossible que ce texte soit mis dans la Bible. Le temps de la révélation n'était pas encore arrivé. Comme je l'ai dit hier soir, c'était le début de la réformation, pas la fin. Elle avait été introduite et c'est une restitution progressive, pas seulement une réformation, mais une restitution, une restauration de tout ce que Dieu avait mis dans l'Église au début. Et je vous dis aussi pourquoi le Seigneur élevé a placé un avertissement aussi sérieux. Cet avertissement aussi sérieux que nous venons de lire à la fin de ce livre, saint et encore une fois saint. Cette fois, dans Apocalypse 2 et 3, il est dit à l'ange d'écrire à l'Église, mais il est aussi écrit cette fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. C'est déjà la première promesse faite à l'âge de l'Église d'Éphèse. À qui les promesses ont-elles été faites? Aux vainqueurs. Qui sont les vainqueurs? Tous ceux qui ne sont pas seulement devenus croyants, mais qui en leur temps ont reconnu et reçu le conseil divin de salut et les messagers envoyés par Dieu pour entendre le message de leur bouche et le confirmer par un Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 12, « Ils ont vaincu l'ennemi, l'accusateur des frères, à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Il y avait quelqu'un qui nous aimait et qui était obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour nous faire passer du domaine de l'ennemi au royaume du Fils de l'amour. Et quel était son but? Éloigner l'humanité de l'arbre de la connaissance vers lequel ils se précipitent tous et qui n'apporte que la mort et l'a mené l'humanité à l'arbre de vie pour entendre les paroles de vie. Car ce n'est qu'en croyant en lui que nous recevons la vie éternelle. Ici spécialement, dans l'Apocalypse, nous voyons comme cela n'a pas été montré depuis Matthieu 1 jusqu'à Jude, le dernier épître. Jésus-Christ marchant comme fils de l'homme au milieu des sept chandeliers d'or. Et il avait sept étoiles dans sa main droite. Et la Bible le dit elle-même ici, dans Apocalypse 1, verset 20. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. L'Église unique du Nouveau Testament passe par ces sept époques. Et nous croyons sans aucune nuance et sans aucun doute que Dieu avait un dernier, un septième ange, un messager, et qu'il l'avait dans sa main, qui n'était pas dans la main d'une organisation, qui n'était pas dans la main d'une société missionnaire, mais qui était dans la droite du Seigneur élevé. Et c'est pourquoi il devait et pouvait apporter le message divin. Il n'avait pas d'autre choix. Il était né dans ce monde pour accomplir et satisfaire le but divin pour lequel il était ici. Le croyez-vous tous? Je le crois de tout mon cœur. Et plus nous réfléchissons et apprécions le fait que Dieu nous a fait la grâce de ne pas glorifier ici un homme, mais de donner toute la gloire à Dieu, tout en reconnaissant humblement que le Seigneur a parlé dès le commencement, lui-même, par la bouche d'un homme. Il y a en effet des gens qui disent simplement « Moïse n'était qu'un homme » et les prophètes, tous ceux qui ont écrit ici les Saintes Écritures n'étaient que des hommes. Oui, mais qui a dit qu'ils étaient des anges? Pas moi. Tout de même, je n'ai pas encore entendu que quelqu'un le prétendre. Mais que disent les Saintes Écritures? des hommes saints, pénétrés du Saint-Esprit, poussés par cet esprit, ont parlé de la part de Dieu. Et ce qui a été dit par Dieu a été mis par écrit. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire. Vous avez reçu la parole que nous vous avons annoncée, non comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu. Ce qu'elle est en effet, la parole de Dieu pouvait autrefois être prononcée par une ânesse lorsque Balaam était sur son chemin malsain et qu'aucun homme ne pouvait l'arrêter. Le Seigneur s'est emparé d'une ânesse et a parlé d'une voix humaine à cet homme qui avait manqué le chemin de Dieu et n'avait pas reconnu l'œuvre de Dieu. Dieu peut prendre qui il veut et faire ce qui lui plaît sans consulter un seul homme. Dès le verset 1 de l'Apocalypse, il est écrit ici d'une manière si glorieuse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Non pas aux scribes, non pas à ceux qui interprètent la parole, mais l'a fait connaître à des hommes choisis par Dieu, pris en charge pour cette mission, pris par Dieu pour ce mandat, pour cette mission précise et désignée à cet effet par Dieu. Et comme nous le savons de Moïse, il a d'abord été un homme qui pensait pouvoir le faire. Puis il est reparti déçu et a dû laisser passer 40 ans avant que le temps de Dieu ne soit venu. Jésus dit, « Votre temps est toutes les voies, mais mon heure n'est pas encore venue. » Nous aussi, nous attendons l'action puissante de Dieu. Et je suis persuadé que le Seigneur ne nous devra rien. Je me réjouis à chaque fois que j'entends de la bouche de frère Branham le puissant événement et l'expérience du juin 33, quand il lui fut crié d'une voix puissante que, de même que Jean fut envoyé avant la première venue de Christ, de même tu seras envoyé avec un message qui doit précéder la seconde venue de Christ. Je crois de tout cœur que c'est vrai. Je ne crois pas que cet homme de Dieu nous ait menti. Je crois que Dieu ne fait que confirmer la vérité et rien d'autre. Et Dieu a confirmé la vérité comme il ne l'a fait avec personne d'autre. Les morts ont été ressuscités. Les aveugles de naissance ont retrouvé la vue. Des boiteux sont devenus marcheurs, ont pu marcher. Des personnes rongées par le cancer ont été guéries. Mais tout cela ne nous suffirait pas si, après tous les signes donnés par Dieu, la voix n'avait pas suivi. Car qu'en était-il au jour de Moïse? Les signes sont venus. Puis l'appel, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Pas seulement des miracles. et des signes, beaucoup d'autres l'ont ensuite repris. Et comme la foi était grande dans l'humanité, n'importe qui pouvait venir et continuer, car l'atmosphère avait déjà été préparée à cet effet. Il s'agissait du message divin. Si nous ne mentionnons pas toujours ces noms à cet endroit, je peux dire ce qui suit à ma décharge à tous ceux qui ressentent peut-être intérieurement des doutes à ce sujet. En publiant les prédications de Frère Branham dans de nombreuses langues, nous nous occupons du peuple de Dieu. Et c'est par ce seul fait que nous rendons un témoignage si puissant de ce que nous défendons et que nous avons une part directe à l'œuvre de Dieu en ces jours. En effet, il ne s'agit pas ici de s'asseoir sur la chair de Moïse, de s'asseoir sur l'enseignement de Moïse. Et je n'oublierai jamais ce jour à Bruxelles. C'était en 75, 75, c'était en 76, 76, lorsque nous y avons eu cette grande conférence internationale à Bruxelles. Et voici qu'en effet, des frères sont venus avec une telle montagne de prédications, une pile de prédications, et les ont placés sur l'estrade. Et je n'en croyais pas mes yeux. Je l'ai vu pour la première fois. Le frère Rousse qui est assis ici sur la plateforme était là aussi, et quelques autres qui savent ce qui a suivi. Soudain, c'est comme si un disque se déroulait dans mon cœur. Les scribes se sont assis sur la chair de Moïse, en faisant référence à son enseignement. Et c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus fort. Je ne sais pas si je ne l'avais même pas suggéré et dit entre-temps, j'ai dû moi-même d'abord chercher le passage dans l'évangile de Matthieu. Mais là où ils étaient en train de feuilleter et une brochure l'une après l'autre, et ils disaient, le prophète a dit. Et il sortait quelque chose de chaque prédication, de son contexte, et le remettait dans le contexte qu'ils avaient en quelque sorte établi soi-même. Et ce qui s'est passé à moi, personne ne peut l'imaginer. Frère Branham a dit, trois choses ne doivent pas être faites. La parole ne doit pas être placée n'importe où, mais là où elle doit être dans son contexte originel. Et elle ne doit pas être interprétée, elle doit être observée dans son accomplissement. Vous savez, ces trois choses sont certainement mieux que... je ne peux les nommer ici pour le moment. Mais quand mon heure est venue, j'ai dû lire ce qui devait être lu. Au temps de Jésus, les scribes étaient assis sur la chair de Moïse. Moïse a dit. Et puis le Seigneur est venu et a dit, c'est Moïse qui a parlé de moi. Et en effet, Moïse avait bien dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Toute âme qui ne l'écoutera pas sera exterminée. Que devait leur dire le Seigneur? Si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu aussi. Et puis, ils ont encore dit, oui, mais Abraham est notre père. Alors, bien sûr, il était trop tard. Il a dit, alors, votre père est le diable. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Cela ne leur a pas plu du tout, n'est-ce pas? Parce que selon selon son corps. Il avait à peine dépassé la trentaine. Il avait l'air d'avoir 50 ans, n'est-ce pas? Et il pouvait dire avant qu'Abraham soit « Je suis ». Bien-aimé, nous ne sommes pas ici sur la chair d'un prophète pour mettre l'accent sur une chose de manière unilatérale. Nous nous tenons ici et nous nous trouvons ici devant la face de Dieu pour apporter une prédication équilibrée au peuple de Dieu, pour proclamer tout le conseil de salut de Dieu. Et pour cela, Dieu a fait grâce jusqu'à aujourd'hui et le fera jusqu'à la fin. Comme j'aspire à ce que nous ayons une porte ouverte pour pénétrer dans les maisons des peuples par la radio et la télévision, quelle qu'elle soit, afin de leur faire connaître ce message divin. Il n'y a probablement personne, je l'espère, qui pense en lui-même. Oui, est-ce si important? Plus important que la nourriture et la boisson. Plus important que tout ce qui est terrestre et impérissable. C'est la sortie de l'Église épouse avant le retour de Jésus-Christ. Son appel à sortir. Car l'œuvre de Dieu est la seule la plus importante qui existe sur terre. Et celui qui traite cette cause, cette œuvre de manière secondaire ou la pratique avec désinvolture n'est pas digne de se tenir à ses côtés. Dieu, nous devons être enflammés, prêts à servir le Seigneur. Qu'est-ce que tout cela nous avons écrit pour qu'il puisse nous répondre, pour savoir si nous pouvions avoir accès au public avec notre annonce, avec notre proclamation. 11 chaînes de télévision. Nous verrons ce qu'il en adviendra. Et si elles refusent toutes, je vous le dis aujourd'hui, cela me conforterait encore plus dans ma foi que tout le reste. Et je vous dis aussi pourquoi. Parce que Dieu ouvre alors le chemin directement vers le satellite, que nous entrons en haut ou que par le haut, sans avoir à frapper quelque part, nous puissions avoir accès au monde entier. Notre Dieu ouvre aussi un chemin là où il n'y a pas de chemin du tout. Oui ou non? Alors, lorsque le peuple d'Israël a été amené à l'extérieur et que la mer Rouge se trouvait en quelque sorte sur son chemin, il s'est très vite avéré que Dieu pouvait ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Il laissa les eaux à droite et à gauche comme des murs. Les théologiens en rient et disent tout simplement que ce n'est pas possible. Qui se souvient de la foi où frère Branham a repris l'un des arguments que ces gens ont à la bouche, car ils disent que Moïse n'a pas vraiment fait passer les gens par la mer Rouge. Non, mais tout au bout, là où elle était déjà sur la plage, là où elle était plate et où il y avait des roseaux et ainsi de suite. Et puis, frère Branham a dit avec son humour que j'aimerais bien avoir. Frère Branham avait un humour très sain. Et vous savez ce qu'il a dit? Alors je ne vois pas qu'un seul miracle. J'en vois deux. Premièrement, que Dieu a quand même ouvert un chemin. Et deuxièmement, avec si peu d'eau, il a pu en recouvrir l'ensemble ici de l'armée de Pharaon. Amen! Amen! Oui, c'est aussi simple que cela. Non, nous ne devons nous inquiéter de rien. Dieu laissera partir les adversaires et se glorifiera parmi son peuple qui a cru en lui et qui a persévéré. Et nous ne serons pas confondus, car tous ceux qui se confient en Dieu et qui lui font confiance ne peuvent être confondus. Il y avait encore une parole de psaume que je voulais lire, et puis encore une parole du prophète Ésaïe. Et puis je pense que nous devrions ensuite, aujourd'hui, remercier Dieu. Nous devrions lui offrir notre adoration, comme jamais auparavant. Psaume 69, verset 7. Qu'il ne soit pas déçu en moi ceux qui espèrent en toi, ô Dieu, ô Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël, ne soient pas dans la honte à cause de moi. Du psaume 68, versets 20 et 21. Psaume 68, versets 20 et 21. Loué soit le Tout-Puissant jour après jour, le Dieu qui est notre secours nous porte. Ce Dieu est pour nous un Dieu de salut. Et l'Éternel Dieu connaît le conseil même contre la mort. Il ne l'a pas seulement su, il l'a exécuté dans les faits. Puis le verset 25. On a vu, ô Dieu, ton cortège, pas le cortège d'un évangéliste, pas avec des tambours et des trompettes. On a vu ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Les prophètes ont la victoire finale. Ils ont vu le dernier tour, le cortège de notre Dieu. Ils l'ont vu à l'avance, en esprit. Lorsqu'ils étaient dans le sanctuaire, Dieu leur a déjà montré que le dernier cortège, un cortège de fête, sera un cortège de victoire. On a vu, ô Dieu, ton cortège. Pas même le cortège du septième messager. Rien d'autre non plus. Mais comme il est écrit ici, on a vu, ô Dieu, ton cortège, le cortège de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. On pourrait continuer à lire des vierges qui battent des tambours, etc. Il y aura un moment où les vierges sages seront manifestées. Il y aura un court passage où un court temps où l'huile de l'esprit sera ajoutée à la parole qui nous a été donnée. Et cela dans cet ensemble d'engrenages que l'on entend encore parfois de si loin aujourd'hui, parce qu'il manque de l'huile. Vous le savez tous. Autrefois, quand on conduisait les chariots, ils n'étaient ni huilés, ni graissés, et cela s'entendait, on ne sait jusqu'où. Aujourd'hui, on entend encore bien des choses. Mais le jour viendra où Dieu remédiera. Où Dieu donc trouvera un remède de bon cœur à tous les défauts. Où l'on ne se contentera pas de donner l'onction à ceux qui suivent leur propre chemin et accomplissent de grandes choses. Mais où la puissance de la résurrection elle-même, la puissance divine, vivifiante, entrera dans l'épouse de l'agneau. Et nous serons intimement lié à l'époux. C'est à ce moment-là que les vierges folles diront « Donnez-nous de votre huile ». Cela ne pouvait pas être dit si aucune différence n'était révélée. Si subitement, soudainement, un groupe ne poussait pas un cri. Au début, il s'agit d'une clameur globale, un cri global, une clameur dans laquelle tous sont inclus et soudain, la déception s'installe, les lampes s'éteignent, il n'y a plus d'huile. Donnez-nous de votre huile. Et là, je pense à Zacharie, chapitre 4, où le réservoir d'huile est au-dessus du chandelier d'or et où sept tuyaux de conduits de coulée font passer l'huile du chandelier, je veux dire du réservoir dans le chandelier, qui aura l'huile à la fin. Tous ceux qui ont compris que Dieu avait ces sept messagers dans les sept âges de l'Église, qui ont reçu un lien avec Dieu, qui sont eux-mêmes devenus une partie de ce chandelier d'or qui représente l'Église. Ils sont devenus une partie de ce chandelier. Ils ne manqueront pas d'huile. Les autres, ceux qui cherchent la connexion chez les épiciers, aujourd'hui, cet évangéliste arrive. Celui-ci sort son truc, l'autre ensuite la sienne. Et puis on entend effectivement, « Allez chez vos épiciers. » Mais il y a une foule qui est appelée à sortir. Elle ne va plus d'épicier en épicier, ni de bric à brac en bric à brac. Elle est devenue silencieuse dans la présence de Dieu. Elle ne se laisse pas impressionner par un ouin de la fin des temps, mais elle se tient fermement dans la parole de Dieu et dans la grâce. Oh, que Dieu nous accorde cela. Et il le fera jusqu'à la fin. Il le fera. Il l'obtiendra. Le prophète Ésaïe contient des paroles tout simplement magnifiques que je voudrais les lire encore. Et puis, je dois arriver à la conclusion que je le veuille ou pas, ou non. Ésaïe, chapitre 46, il est écrit au verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Rappelez-vous, donc Ésaïe 46, verset 9, rappelez-vous les événements ou bien alors les prophéties passées. Événements ou prophéties, a dit Frère Franck. Dès les temps anciens, que je suis Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. La divinité à laquelle rien n'est comparable. Dès le commencement, j'ai fait connaître. J'ai fait connaître l'issue. Et dès les temps anciens, ce qui n'était pas encore arrivé. J'ordonne que mon dessein s'accomplisse. Et j'exécute tout ce qui me plaît. Amen. Remarquez qu'à la fin, ce n'est pas un prophète ni un apôtre. À la fin, c'est le Seigneur lui-même qui a commencé son œuvre avec nous et qui l'achèvera. L'achèvera. Résumons ce que Dieu nous a montré ce week-end. C'était si varié, si glorieux. Nous pouvons simplement dire qu'il a nourri notre âme avec la nourriture. Il a abreuvé les assoiffés, fortifié ceux qui étaient fatigués. Il a ranimé les genoux et les mains affaiblies. Il a réconforté le cœur des découragés. Qu'avons-nous mis en évidence depuis mercredi soir déjà? Dieu réconforte son peuple à partir des Écritures. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 15, il est parlé là de la consolation que les Saintes Écritures nous accordent. Si ce n'est qu'un homme qui nous dit quelque chose, nous pourrions nous demander s'il en est ainsi ou non. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, alors c'est et cela reste oui et amen. Ici, il dit, dès le commencement, j'ai fait connaître l'issue et dès les temps anciens, ce qui n'était pas encore arrivé. J'ordonne que mon dessein s'accomplisse et que j'exécute tout ce qui me plaît. Il a relu le verset 10. Dieu a parlé et cela a été fait. Il a ordonné et c'était là. Non seulement dans la création en tant que Yahvé, mais aussi en tant que Yahshua, sous la forme grecque de Jésus quand il marchait sur la terre. Il commanda au vent et il se coucha. Il l'a dit aux vagues, silence, et elles se turent. Tout était silencieux. Et même les disciples se parlaient entre eux. Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les vagues lui obéissent? C'était lui, c'est lui. Et ce sera encore lui, celui qui pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne parlez pas, s'il vous plaît, d'un deuxième tout-puissant. Certains parlent de Satan qui a tant de pouvoir. Satan n'a que le pouvoir que nous lui accordons. Jésus-Christ a écrasé la tête du diable, du serpent. Jésus-Christ a vaincu Satan et a triomphé de la mort. Donc du serpent. Croyez-moi, c'est vrai, Satan aussi a ses limites. Tout d'abord, lorsque nous sommes enlevés, il est jeté en bas. Et avant que le règne de 1000 ans ne commence, il est lié et jeté dans l'abîme. Ne vous inquiétez pas de la puissance, d'une puissance quelconque de Satan. C'est une puissance, mais une puissance vaincue. Et qu'est-ce qu'une puissance vaincue? Un empire qui a dû capituler, qui a dû déposer les armes. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Et c'est Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Et sa victoire est aussi la nôtre. Il a tout acquis pour nous. Nous voulons le remercier pour cela. Je n'arrive même plus à rassembler toutes les choses que nous avons considérées ce week-end. Je l'ai en tout cas apprécié. Et laissez-moi vous dire encore une fois que Dieu nous a donné une part de l'arbre de vie. Il nous a donné d'avoir part à l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Nous n'avons rien enlevé ou alors retranché aux paroles de la prophétie de ce livre. Mais nous n'avons rien ajouté non plus. Combien d'entre eux n'ont rien fait de plus, mais ont ajouté. N'ont rien retranché, mais ont ajouté. Et ce qui arrive à ceux qui ajoutent arrive exactement de la même manière à ceux qui retirent, qui retranchent. Il faut laisser les choses de Dieu telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'homme qui ait le droit d'y ajouter ou bien alors de compléter quelque chose. J'y pense maintenant, il n'y a qu'un seul sermon que j'ai prononcé dans toute ma vie que j'aurais pu entendre en entier. Vendredi, j'ai reçu par la poste le sermon que j'ai prononcé à Bruxelles. Je crois que c'était le 9 avril, juste après la Pâque. Je crois que c'était ici. Je l'avais tenu en anglais et il avait été traduit en français. Et j'avais lu hier exactement la moitié des 26 pages. Et cette nuit, presque tout est maintenant, avant cela, les trois dernières pages en français. Ce qui m'a frappé, c'est que, où que nous soyons, l'Esprit de Dieu nous donne une vue d'ensemble. Et c'est également au début de la semaine dernière que j'ai entendu un sermon en anglais que j'ai prononcé quelque part en 78, en 78. Je ne sais même pas où. J'aurais pu tenir cette prédication hier. Tellement les choses qui y étaient dites étaient à jour, actuelles. Je n'ai pu que dire, Seigneur, comme tu es merveilleux et fidèle. Ce n'est pas un homme qui a une sorte de concept qu'il met en œuvre. Non. C'est Dieu qui a un plan qu'il met à exécution. Et il dit, mon dessein s'accomplira. Et tout ce qui me plaît, je l'exécute. Derrière cela, nous pourrions dire, ainsi parle le Seigneur. Il l'a dit et il en est ainsi. Si frère Branham donnait aujourd'hui ses prédications, tenait aujourd'hui ses prédications, il y en a qui disent, ah, il aurait dit ceci ou cela autrement. Il aurait dit exactement comme il l'a dit, comme il a dit. Dieu veille sur tout. Même ce qui nous semble parfois incohérent, sera autant fixé par Dieu, si rimé et si glorieux, que l'on ne pourra qu'offrir des remerciements et des adorations dans l'émerveillement. Mais la pensée que je voulais associer à Bruxelles était celle-ci. J'y avais mentionné que frère Branham avait raconté l'expérience qu'il avait eue dans une vision le 22 décembre 1962. Et il appelle cette expérience les sept tonnerres. Et c'était tellement puissant et Life Magazine en a parlé et ainsi de suite. Et puis, il y a effectivement des gens qui ne savent pas à quoi il fait référence. Vous vous souvenez? Il a vu dans une vision se pencher. Il s'est vu lui-même dans une vision se pencher et essayer de retirer une bardane de sa jambe du pantalon. Et soudain, il y eut un fracas assourdissant, cette détonation successive comme des coups de tonnerre. Et il appelle cela également X fois sept tonnerres parce que c'était sept choses violentes accompagnées de fracas et ainsi de suite. Puis, il y a des frères qui prennent une telle chose qui n'a aucun rapport avec Apocalypse 10 et qui disent, oui, c'est bien ici que le prophète l'a dit. Je vous demande, où est-ce qu'il a dit que les sept tonnerres d'Apocalypse ont été filmés en direct ou dans des magazines ou qu'ils ont été rapportés par un photographe ou un magazine non-croyant Où est-ce qu'il s'est référé à Apocalypse 10, 1, 1, 1, 1, parlant ainsi, voyant, voyez ce qui est important? Est-ce que vous voyez ce qui importe, ce qui importe? Il ne suffit pas d'entendre les cloches sonner. Il faut aussi savoir où se trouve la tour. Et qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Il faut avoir soi-même de Dieu reçu une vue d'ensemble et surtout ne pas poursuivre ses propres objectifs. Ce qui est grave, c'est que si des frères poursuivent leurs propres objectifs, ils doivent plier et rompre à tout prix. Et interpréter et plier et rompre et ici et là. Non, mais Dieu nous a épargnés de tout cela. Nous n'avons pas besoin de plier ou de rompre quoi que ce soit. Mais comme l'a dit le prophète Ésaïe, en anglais, je trouve encore plus beau. Line on line, ligne après ligne, l'un après l'autre. Tout est magnifiquement assemblé et nous voyons une construction globale, un édifice global entier devant nous. Certes, il y a d'abord un peu de choses en partie, mais ces choses en partie globales donnent à la fin quelque chose de parfait, quelque chose d'entier, quelque chose d'achevé, de clos. Et nous sommes maintenant à la fin. Si nous devons nous exprimer ainsi de cet édifice divin, de l'achèvement de l'Église épouse de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations. Alors, que nous nous apprêtons à passer à la prière en venant devant, demandons vraiment de tout notre cœur que Dieu bénisse tous les gouvernements, toutes les autorités. Et en vue du fait que l'Évangile doit encore être annoncé, prions pour que chaque projet, en particulier celui de M. Gorbatchev, soit couronné par la réussite de Dieu. On entend des voix politiques pessimistes. Tout cela fait partie de l'échange de paroles. Ne vous inquiétez pas. L'heure de Dieu est arrivée. Et il sait exactement quand il doit faire quoi et par qui et que tout ne peut pas changer du jour au lendemain. Nous le savons tous. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu du fond du cœur. Et nous souhaitons que dans toute l'Europe de l'Est, de tels hommes soient ceux qui président et que partout la prédication de la parole prenne son essor et que les portes s'ouvrent et que Dieu nous donne cela. Bien sûr, j'ai aussi été déçu de voir la grande image du prêtre en robe blanche prenant l'eau dite d'une source sacrée et arrosant un pécheur impie avec un si grand seau. Et cela devait être un baptême. Ce n'était pas du baptême. Ce n'était pas un baptême. Une aspersion est une aspersion. Mouiller, c'est mouiller. Arroser, c'est arroser. Un baptême, c'est un baptême. Ce sont des choses que j'enregistre tout comme vous tous. Mais je regarde un peu plus loin, pas seulement les gros titres ou les photos. Je regarde plus loin, à savoir qu'en lien avec cet assouplissement, l'occasion se présente aussi pour nous de porter la parole révélée. Et tant mieux pour nous si nous faisons largement usage de cette occasion. À lui, le Dieu vivant, soit la reconnaissance. Je l'ai dit quelque part, il y a guerre d'hommes d'État sur terre à qui j'aimerais serrer la main. Helmut Schmidt, je vous ai... Je lui ai serré la main à l'aéroport de Zurich à l'époque et j'ai parlé avec lui. Mais je n'ai pas vraiment envie de rencontrer qui que ce soit d'autre. Mais ce serait un grand cadeau pour moi si je pouvais un jour serrer la main à Mikhaïl Gorbatchev du fond du cœur. Allons-nous prier pour que Dieu soit avec lui et le bénisse. Il met en place des rois et les renverse. Le temps est venu et qu'il nous accorde, comme je l'ai déjà dit, la grâce de laisser toutes ces choses à droite et à gauche, et notre tâche au milieu de tout ce qui peut se passer autour de nous sur le plan économique et politique, que nous laissons à droite et à gauche ces choses et que nous assumons notre tâche, qui est la chose principale et qui doit donc rester au milieu et en équilibre et qui le restera jusqu'à la fin. Dieu dit, j'ordonne, mon dessein s'accomplira. Ce que j'ai décidé, je l'exécute. Ce qui me plaît, je l'exécute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton nom soit sanctifié et ainsi de suite. Puisse-t-il se glorifier et nous bénir tous encore abondamment au nom de Jésus. Amen.